Tiens, voilà la vieille qui passe là-bas. Tiens, voilà la vieille qui sort du grand bois. Ah, quelle merveille, la vieille, la vieille. Ah, quelle merveille, cette vieille-là. La vieille farouche qu'on monte.
Tranche de vie. Petit voyage à travers nos existences.
Elle dit des merveilles, la vieille, la vieille. Elle dit des merveilles, cette vieille-là. Elle dit, je suis riche et je vais au bois. L'argent, je m'en fiche, je le donne au roi. Il prend ton oseille, ma vieille, ma vieille. Il prend mon oseille, mais je vais au bois.
Auditeur de Tranche de vie, vous vous souvenez peut-être, pour ceux d'entre vous qui sont des fidèles de l'émission, que nous avons rencontré des gens qui ont passé leur vie dans des endroits étranges ou qui ont mené une vie vagabonde. Mais la personne que vous allez rencontrer aujourd'hui n'a guère quitté le Périgord, et pourtant, sa vie a été extrêmement riche. MJ, bonjour. Merci de répondre à nos questions, de nous parler un petit peu de ce que vous avez fait dans votre vie. Est-ce que vous êtes natif du Périgord ?
Oui, je suis né à Thiviers. Et il est vraisemblable que je vais mourir à Thiviers. Et je suis peut-être natif du Périgord, je suis resté dans le Périgord. Bon, j'ai voyagé, j'ai tourné, mais c'est là où j'ai habité. Et pourtant, je me sens citoyenne du monde. J'ai à la fois mes racines ici et ma tête un peu dans l'univers.
Alors, est-ce que vous pouvez nous parler du métier que vous avez exercé et puis nous dire un petit peu comment vous êtes arrivé à exercer ce métier.
J'étais prof de sciences nat. En fait, quand j'ai commencé, ça s'appelait prof de sciences nat. Après, c'est devenu biologie-géologie. Et lorsque je suis partie, c'était devenu SVT, c'est-à-dire sciences de la vie et de la terre. Bon, ces appellations, ça peut paraître superflu, mais c'est vrai aussi que dans la philosophie de cet enseignement, ça avait changé quand même pas mal de choses. Comment j'ai été prof, un peu par hasard. J'avais fait sciences ex, puisqu'à l'époque, le bac se passait en deux parties. Une première partie, bac général, et deuxième partie, c'était une spécialité. J'avais fait donc spécialité physique, chimie, sciences nat, sciences expérimentales. Et j'ai eu un prof de sciences nat qui m'a, qui m'a passionné, qui m'a donné le goût de cette discipline. Et j'ai continué en sciences nat. Et puis après, qu'est-ce que je pouvais faire j'ai fait prof, voilà, tout simplement. J'ai travaillé à Nontron et puis après j'ai été nommé à Thiviers et j'y suis resté.
Alors, vous avez fait vos études supérieures à Bordeaux ?
Oui, c'est ça.
Et vous avez été amené donc aux sciences naturelles, à la biologie, donc ce qu'on appelle aujourd'hui sciences de la vie et de la terre, par l'influence quand même d'un enseignant qui a été déterminante dans votre orientation.
Absolument, je me souviens, elle s'appelait Madame Marchive. C'était une femme qui était passionnante et vraiment, je crois que c'est à cause d'elle ou grâce à elle. Je peux dire même grâce à elle parce que vraiment j'ai une vie très riche, très vraiment ce que j'ai fait, je l'ai aimé passionnément et je crois que c'est elle qui m'en a donné le goût.
Qu'est-ce qui, dans la biologie, vous attirait particulièrement ?
La biologie, c'est une science, bon, c'est la science du vivant. Et quand j'ai commencé, la biologie a commencé son essor. On commençait à parler des chromosomes, on commençait à parler du karyotype, etc. Et tout au long de 40 ans de carrière, je dois dire que c'est une discipline qui a évolué de façon extraordinaire. Je ne sais pas s'il y a une autre discipline qui a autant évolué, ainsi d'ailleurs que la géologie, parce que notamment avec les plaques tectoniques, etc., la géophysique, il y a eu des découvertes qui ont été remarquables, ce qui fait que j'ai été obligée d'étudier un peu toute ma vie, et ça a été passionnant.
Alors, votre vie active, vous êtes obligé de suivre le mouvement de la biologie. Et est-ce que vous avez, malgré tout, eu le temps de vous intéresser à d'autres problèmes autour de vous, soit dans le cadre de votre enseignement, soit dans le cadre de vos autres activités?
J'ai l'impression que j'ai un peu papillonné, vous savez, je me suis intéressée à pas mal de choses, mais les rapports que j'ai eus avec mes élèves étaient tellement prenants, parce que là aussi, la biologie a évolué, mais les rapports avec les élèves ont totalement changé. Au début, enfin, et moi aussi d'ailleurs, c'est peut-être ma vision des élèves qui fait que je les ai vus changer, j'étais peut-être plus attentive, je ne sais pas. Mais au début, c'était transmettre un savoir, et petit à petit, en fait, ça a été partager la découverte, partager le savoir, et c'est allé bien au-delà, parce qu'ensuite, les élèves venaient me voir, me raconter ce qu'ils faisaient. Bon, j'ai participé à des voyages avec eux, que ce soit, j'ai organisé des voyages au niveau géologique, on a vu des laboratoires, on est allé, bon, et ça a été très très prenant. Je dois dire que pendant que je travaillais, j'avais assez peu de temps pour le consacrer à d'autres activités. C'était peut-être des activités en dehors de mes cours, en plus de mes cours, mais c'était quand même très prenant.
Mais bien sûr, vous avez eu une vie familiale, personnelle,
oui. Oui.
Mais je dois dire, et on viendra, on en parlera bien sûr, mais je dois dire, je vais ouvrir une parenthèse personnelle en disant que il y a quelques minutes encore, il y a un petit moment, nous sommes allés déjeuner au restaurant ensemble. Et nous avons rencontré, comme ça, deux élèves, deux anciens élèves, qui vous ont salué d'une manière tout à fait civile, en se rappelant à votre bon souvenir. Donc, c'était très important et très spectaculaire, je dirais, de voir comme ça que vous avez parsemé autour de vous des souvenirs et qu'il vous arrive de rencontrer assez souvent de vos anciens élèves. Vous m'en avez cité d'autres qui sont encore dans la région. Votre vie familiale, est-ce que vous avez pu la mener facilement de front avec votre vie professionnelle?
Oui, parce que bon, je dois dire que j'ai eu un époux qui a été très compréhensif. Lui, il était dans l'administration. En l'épousant, je crois que j'ai épousé toute l'éducation nationale, puisqu'il était maître auxiliaire. Il a d'abord été surveillant d'externat. Il a été maître auxiliaire. Après, il a été CPE. Après, il a été censeur, puis chef d'établissement. Et chaque fois qu'il a évolué, il aurait fallu changer de poste. Or, en sciences nat, il y a très peu de postes. Et on serait allé, Dieu sait où, pour être ensemble. Donc, il a accepté de partir, et moi je suis restée à Thiviers. Et s'il n'avait pas accepté cela, je pense que je n'aurais pas pu faire ce que j'ai fait, je n'aurais pas pu lier les contacts que j'ai liés, je n'aurais pas pu avoir les rapports que j'ai eus avec mes élèves et que j'ai encore avec certains anciens élèves. Et je dois dire que ça, c'est grâce à lui. Après, les enfants, bon, ben, c'est comme toute femme qui travaille, qui a des enfants. Le plus difficile, c'est que par deux fois, par l'un et l'autre, je les ai eus en classe, une année chacun. Et franchement, ce n'est pas facile. Hein, parce qu'on a peur, aux yeux des autres, d'être trop cool. Ou on a peur, avec eux, ils s'imaginent qu'on est trop sévère avec eux. Ce n'est pas une situation facile.
Ça, j'imagine bien volontiers. Mais pour revenir à votre vie familiale, ou vie conjugale, vous avez fait quand même de gros sacrifices, en tout cas votre mari a fait sacrifice, mais que je suppose que vous avez consenti tous les deux, d'être séparés comme ça pour que vous puissiez continuer à exercer, où vous l'aviez choisi, votre métier de professeur de sciences naturelles. Vous nous avez parlé des relations avec les élèves et du comportement des élèves qui avait changé. Ça, vous l'avez noté au cours de votre carrière, ce changement ?
Oui, il y a eu une plus grande liberté de parole, c'est vrai. Mais bon, on s'organise avec. J'avais créé des moments de libre expression, c'est un peu pompeux, mais en fait, je laissais ma classe ouverte pendant les récréations et ils adoraient venir discuter. Et bon, ils me racontaient ce qu'ils faisaient, ils me racontaient, ils m'ont même mimé des sketchs. Bon. Et c'était beaucoup plus facile après pour leur dire, bon, moi je vous ai écouté, maintenant c'est vous qui m'écoutez en étant tout aussi attentif que moi je l'ai été par rapport à vos propos. Et ils savaient que s'il y avait un problème, ils pouvaient venir me trouver. Et disons que cette liberté de parole, de leur part, m'a permis aussi d'avoir des exigences vis-à-vis d'eux.
Alors, ces relations presque intimes, très, très proches finalement, et de confiance, est-ce que vous pensez qu'elles ont disparu ou que c'est quelque chose qui a beaucoup diminué dans les relations qu'on trouve entre les enseignants et leurs élèves dans les classes aujourd'hui?
Ça, je ne sais pas, je ne sais pas. Parce que, en fait, bon, pendant que je travaillais, il y avait des collègues qui n'étaient pas d'accord avec cette façon de faire, qui me l'ont même dit ouvertement. Bon.
Qui souhaitaient des relations plus hiérarchiques.
Absolument. Oui, absolument. Un prof est là pour distribuer le savoir, point barre. Et bon, c'est vrai qu'on est prof, mais on est aussi adulte. On fait partie du ministère de l'éducation, et pour moi, l'éducation, c'est pas seulement une transmission de savoir, une transmission de connaissances, c'est aussi l'apprentissage de la vie. Et l'apprentissage de la vie, c'est pas seulement avaler des connaissances que l'on va vous donner et qu'il faut ingurgiter.
Donc vous n'êtes pas contenté d'être un professeur de sciences de la vie ou de la terre, enfin de sciences naturelles, mais vous avez été quand même une sorte de tutrice morale à l'occasion des élèves qui sont passés entre vos mains.
Mais même pendant les cours, parce que faire partager la joie de découvrir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, bon, comment vous expliquer? Par exemple, il y a 15 microscopes. Bon, vous avez les élèves, ils sont par deux élèves pour un microscope, et ils s'imaginent tous avoir découvert l'Amérique. Madame, venez voir, madame, venez voir, madame, venez voir. Et il faut partager leur découverte. Quelquefois, il faut rectifier parce qu'ils ne regardent pas forcément ce que je voudrais qu'ils regardent. Mais madame, venez voir. On en sort, on est lessivé, essoré. Mais alors, c'est le vrai bonheur, c'est le bonheur. Et eux aussi, ils aiment partager avec les autres, notamment avec les parents, ce qu'ils ont découvert à l'école. Et quelquefois, ça ne marche pas. Bon, je vais vous citer un exemple. Pour les nerfs, bon, tout le monde s'en fiche, mais ça fait rien. Les nerfs achilliens, la grenouille. Bon, eh bien, je tuais les grenouilles avant au chloroforme, je les endormais, bien endormies, elles ne se réveillaient pas, et je les distribuais tout de suite aux élèves. Et ils voyaient en même temps qu'ils allaient faire leur dissection, l'autonomie des organes, notamment le cœur qui battait encore. Et ils étaient tous émerveillés, on mettait le cœur dans du sérum physiologique, et pendant qu'ils faisaient la dissection, le cœur continuait à battre. 20 minutes, une demi-heure quelquefois, et ils ont voulu le partager. Il y en a, ils l'ont partagé avec leurs parents. Et il y en a qui sont revenus bien déçus. Vous savez, madame, mes parents, ils n'ont pas voulu me croire quand je leur ai dit que le cœur détaché de l'animal. Et cette déception, le non-partage avec le monde des adultes, je me suis rendu compte que pour eux, c'était une frustration. Et c'est ce qui m'a poussé un petit peu à les écouter davantage.
Donc vous considérez que l'empathie, c'est une qualité absolument indispensable, l'empathie pour les élèves, une qualité absolument indispensable d'un enseignant?
Pour moi, oui, mais je crois que ça dépend des gens, hein. Il y a des gens qui ne veulent pas, alors c'est pas la peine qu'ils se forcent, hein. Mais je n'étais pas toute seule à vivre ça. J'ai eu une autre collègue, c'était pareil. Bon, il y a eu un prof de français qui faisait ça. Je crois que la richesse vient de la diversité. Et bon, moi, j'ai vécu mon métier comme je le sentais. Que je pense qu'il y en a d'autres maintenant qui continuent à faire ça. Ma petite fille est à l'école, bon, elle est au CP, mais je me rends compte des rapports qu'elle a avec sa maîtresse qui sont absolument excellents.
Parmi les élèves que vous avez eus, est-ce que il y en a dont vous avez, chez lesquels vous avez éveillé une vocation pour continuer dans la branche que vous enseignez, ou est-ce qu'il y en a qui ont fait des carrières intéressantes et que vous avez pu suivre comme ça par la suite?
Oui, j'ai eu de très très bons élèves. Bon, il faut vous dire aussi que au collège à Thiviers, pendant très longtemps, on n'a pas eu pour les 4e, 3e de prof de physique chimie, il n'y avait pas assez d'heures pour avoir un poste. Donc les deux profs de sciences nat qui étaient là faisaient physique chimie. Et je dois dire que j'ai donc fait de l'interdisciplinarité avant l'heure. Et c'était vraiment très, très enrichissant de leur montrer combien ces disciplines étaient complémentaires. Et ça m'a facilité d'ailleurs, dans l'enseignement propre, ça m'a facilité un certain nombre de choses, passer de l'un à l'autre et leur montrer qu'il n'y avait pas de barrière. Et j'ai eu des élèves qui, de nombreux élèves qui ont continué en physique. Il y en a un qui est chercheur d'ailleurs à Toulouse, des ingénieurs. Et j'ai parmi mes élèves trois professeurs agrégés de biologie, alors que je ne suis pas agrégée. Et être dépassée par ces élèves, je peux vous assurer que c'est le bonheur.
Et vous avez d'autres exemples d'anciens élèves qui ont continué dans des voies différentes et qui sont arrivés comme ça à faire des carrières aussi tout à fait intéressantes?
Oui, mais je crois que la réussite, c'est pas seulement avoir une carrière que l'on peut dire brillante. Si ils arrivent à être heureux avec ce qu'ils font, j'ai eu de très bons élèves, j'ai eu des élèves moyens, j'en ai eu et j'ai eu autant de bonheur à enseigner à ceux qui, même en SECPA, c'est-à-dire c'est un enseignement spécialisé pour des élèves en difficulté. J'ai eu autant de bonheur à enseigner dans ces classes qu'en 3A où, pour certains, ils ont été très brillants et ils ont fait des carrières brillantes.
Voilà, donc c'est bien ce que je voulais dire. Vous avez eu des élèves qui ont continué dans la voie, dans la spécialité dans laquelle vous enseignez ou dans des spécialités connexes, mais vous avez eu des élèves aussi qui ont pris des orientations complètement différentes et qui ont pu avoir des vies tout à fait intéressantes, peut-être parce qu'ils ont profité de la, disons le mot, de la philosophie que vous leur avez enseignée à côté de la biologie.
Je l'espère. Je l'espère.
Parce que il est bien entendu que quelqu'un qui peut devenir un grand boulanger en ayant été un de vos élèves de biologie, on peut considérer qu'il a fait aussi une vie tout à fait réussie, même s'il ne devient pas un grand boulanger.
Absolument, absolument. Il y a quelque chose que j'ai appris dans mon métier, c'est que... La compétition à outrance, et on y est en plein dans notre société, la compétition à outrance, ça fait naître des comportements qui sont asociaux et qui, quand ils arrivent à l'âge adulte, peuvent devenir antisociaux. Et très rapidement, je m'en suis rendu compte, et alors que les classements étaient encore à la mode, j'ai refusé de classer mes élèves. Il fallait qu'ils se classent par rapport à ce qu'ils avaient fait avant. Ils étaient à un certain niveau, tout ce que je leur demandais, c'est d'arriver à un niveau au-dessus et non pas de se comparer au voisin ou à la voisine. Et ça, pour moi, c'est très très important à leur apprendre ça. Leur apprendre que s'ils ont 0,1 devoir, c'est pas eux qui sont nuls, mais c'est le devoir qu'ils ont raté, c'est tout.
Vous êtes contre la notation ?
La notation, c'est un système comme un autre, mais bon, La notation, c'est quelque chose qui est négatif. J'explique pourquoi. Quand je dis négatif, c'est mathématiquement négatif. Parce qu'un devoir réussi, bon, vous allez dire, ça vaut 20. Et puis vous prenez votre stylo, vous commencez à souligner les erreurs. Telle erreur, ça enlève tant de points. Telle erreur, ça enlève tant de points. C'est-à-dire que vous comptez les moins après. Donc les moins, c'est négatif. Et il reste tant. Et où c'est caricatural, par exemple, c'est en orthographe. Un élève qui a 15 fautes en moyenne au premier trimestre va avoir 0 de moyenne. Au deuxième trimestre, il a 10 fautes, il a fait de gros progrès, mais il aura quand même 0. Et au troisième trimestre, il arrive à 5 fautes, il aura toujours 0, alors qu'il sera passé d'une moyenne 15 fautes à 5 fautes. Il aura fait des progrès et la note ne le dit pas. Quand on corrige, vous avez un barème. Si vous changez de barème, vous pouvez avoir une toute autre note globale. Bon, c'est un signe, c'est intéressant, c'est un moyen pour les examens, mais il ne faut pas que ça enlève l'évaluation, parce que vous avez 12 de moyenne, pourquoi ? Parce que vous savez vos leçons par cœur, parce que vous savez utiliser vos connaissances, parce que vous savez émettre une hypothèse, parce que vous savez tirer une conclusion, ça ne vous apprend rien sur l'élève. Surtout la moyenne. Alors là, la sacro-sainte moyenne. Mais bon, là, je ne crie pas à roue sur la note, mais à mon avis, ça ne suffit pas pour faire un bilan.
Vous êtes quand même partisane de l'auto-évaluation, d'une évaluation collégiale, en tout cas relative, qui se fasse relativement aux autres.
Oui et non. Collégial, peut-être pas, mais enfin, ils doivent être capables de s'auto-évaluer. J'avais fait des tableaux d'auto-évaluation. Par exemple, il y a premier trimestre pour les sixièmes, savoir réciter une leçon. Bon. Deuxième trimestre, savoir répondre à une question à partir de connaissances acquises. Troisième trimestre, savoir émettre une hypothèse à partir d'une observation. Bon, et chaque fois, il devait savoir « je suis capable, je ne suis pas capable, je suis capable, je ne suis pas capable ». Bon, et dans le devoir après de synthèse, il y avait des notes, parce qu'il fallait en donner, mais il devait savoir exactement à quoi correspondait la note. C'est-à-dire que, bon, j'ai eu 4 sur 7 pour les hypothèses, j'ai eu 3 sur 3 pour les leçons, etc. Une note, ils doivent savoir à quoi ça correspond.
C'est-à-dire que la notation strictement quantitative, elle doit être complétée automatiquement.
Absolument.
Par une évaluation qualitative.
Absolument.
Qui est faite par l'élève elle-même et par rapport aux autres.
Absolument.
À côté de votre... Alors, vous avez enseigné essentiellement à Thiviers. Manifestement, dans le bonheur, sinon dans l'euphorie. Et... À côté de ça, est-ce que vous avez pu, bien sûr, vous avez eu votre vie familiale, est-ce que vous avez pu avoir quand même d'autres dérivatifs ou des dérivatifs particuliers ? Est-ce que vous avez pratiqué des sports, des arts particuliers ? Quels ont été vos passe-temps, si vous en avez eu, et vos autres passions que l'enseignement ?
J'avais une passion, c'est vrai, c'est la lecture. Et une deuxième, j'ai eu deux passions, la lecture et le cinéma. Bon, le cinéma, j'y vais toujours. C'est la lecture un peu, enfin, c'est maintenant c'est niet puisque j'y vois très mal. Mais ça, c'est autre chose. Et bon, on a fait des voyages, des promenades. Et ça va vous paraître peut-être bizarre, mais mon dérivatif principal, c'était m'asseoir dans mon jardin et écouter pousser l'herbe.
C'est un bon dérivatif, mais le cinéma, parle-nous un petit peu de votre amour du cinéma. Qu'est-ce que vous aimez au cinéma ? Qu'est-ce que vous avez aimé ? Qu'est-ce que vous continuez à aimer ?
Je peux vous dire plutôt ce que je n'aime pas. Tout ce qui est science-fiction. Science-fiction et ce qu'ils appellent film d'action, c'est-à-dire au bout de 3 secondes, vous avez 2 revolvers qui sortent. Ça, c'est le genre de truc que je n'aime pas. Et science-fiction, je n'y rentre pas du tout. Alors là, mais pas du tout.
Donc, vous voulez un cinéma, ce qui vous plaît, c'est un cinéma qui est ancré dans le réel, qui ne soit pas plus brutal que la vie ordinaire. Et qui ne soit pas du ressort de l'anticipation plus ou moins hasardeuse.
Oui, oh mais j'aime, disons que j'aime tout dans le cinéma. Bon, la violence, bon, par exemple, si vous prenez, comment il s'appelait ce film? Oh là là, je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Bref, où c'est un démon qui assassine. Comment s'appelait-il? Oh, il a bien 10 ans, même peut-être plus, ce film. Bon, c'était violent, mais c'était mené, c'est avec Jodie Foster. Vous voyez pas ce que je veux dire?
Non, j'avoue, là, vous me
Bon,
prenez au
là,
dépourvu.
oh là là. Bon, ça n'a absolument aucune espèce d'importance. C'était très violent, ce film. C'était très sanguinaire. Mais il m'a énormément plu. Pour revenir, pourtant, La Guerre des Étoiles, Dieu sait si on a dit du bien, tout ce que vous voudrez, je ne suis pas rentrée du tout dedans. Il y en a un autre où je ne suis pas rentrée. C'est-à-dire, mes goûts sont très éclectiques, la haine. Alors ça, jamais je n'ai pu rentrer dans ce film.
Oui, mais là, vous faites allusion quand même à des films qui est quand même assez dur, hein. À l'inverse, qu'est-ce qui vous plaît beaucoup? Par exemple, un film ou deux films qui vous ont beaucoup plu? Ou ému ou...
Bon, ce qui m'a ému, je suis allée le voir avec ma petite fille, Le Petit Prince. Bon, le dernier que j'ai vu, c'était la semaine dernière, c'était Médecin de campagne. Bon, il y a plein de choses à dire. Mais je prends tout ce qui vient en général, hein. En général, je prends tout ce qui vient. J'aime le cinéma et je fais le tri après. J'y vais d'abord, je fais le tri après.
La lecture, maintenant que vous êtes obligé, hein, de la laisser un peu de côté, en raison de l'évolution de votre vue, est-ce que ça vous manque beaucoup?
Ah oui. Oui, ce qui me manque, et tous les gens qui aiment lire me comprendront, le contact avec le papier, l'odeur du livre, de l'encre, c'est quelque chose qui ne se remplace pas. Il y a le contenu et le contenant. Et je n'ai plus ce rapport avec le contenant. Le soir, être dans mes coussins au lit avec un livre, je l'ai plus, j'ai plus ça.
Est-ce que vous compensez ça par la télévision ou par la radio, qui permet d'écouter des programmes?
Ah oui, là aussi, je suis très éclectique. Enfin, je suis très éclectique, mais la télé, il y a des soirs, c'est niette, hein. Même en étant une très grande zappeuse et en étant très indulgente, et en ayant CanalSat, les soirs, c'est pauvre, hein. Non, ça suffit pas. Alors j'écoute la musique, j'ai le casque sur les oreilles, je me fais mon monde. J'écoute de la musique, j'écoute la lecture de livres, bon, et voilà.
Sans indiscrétion, MJ, est-ce qu'il y a longtemps que vous êtes à la retraite?
Comme j'avais commencé jeune, je me suis mise en pré-retraite. Et donc j'étais en pré-retraite en 2000. Donc
D'accord.
ça fait 15 ans.
D'accord.
16.
Vous vous souvenez de ce ministre d'éducation nationale, un peu philosophe, là, qui a écrit un livre qui s'intitulait Qu'est-ce qu'une vie réussie? Il a comme prénom Luc.
Ferry.
Est-ce que, ici, à Thiviers, dans votre enseignement de femme tranquille et malgré tout ouverte sur le monde, vous estimez avoir une vie réussie?
Oui. Et je vous redirai ce que mon père m'avait dit. Et il venait de lire que bon, la mortalité était à 74 ans. Était à 72 ans à l'époque pour les hommes. Il venait d'en avoir 74 et j'étais un grand malade du cœur. Il me dit, tu sais, j'ai eu une belle vie. Eh bien maintenant, sachant ce qui m'attend, je voudrais avoir une belle mort. Eh bien moi, c'est pareil. Et le cher homme, il est mort dans la nuit d'une crise cardiaque. Eh bien moi, c'est pareil, j'ai eu une belle vie. Je ne voudrais pas traîner, je voudrais avoir une belle mort comme lui.
Sur cette considération un peu triste,
Mais non!
nous allons vous quitter, Marie-Jeanne, en vous remerciant beaucoup, à la fois malgré tout de votre optimisme et puis de votre largeur de vue. Merci beaucoup.
Bonne soirée.
Eux, tous les satyres font grève sur le tard. On ne veut plus rire sans la vieille là. Et tous en sommeil, sans vieille, sans vieille.
C'était Tranche de vie, sans la vieille, une émission proposée par Jean-François.
Sans la vieille au bois.